Bulle d'histoire. Hein ? Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Art District. Je suis dans la librairie de Jérôme Briot, la planète des saints. Jérôme Briot, on l'avait entendu au mois de décembre. Il nous avait donné ses conseils de lecture pour Noël, ses conseils de cadeaux de Noël en bande dessinée. Et je le retrouve aujourd'hui, juste le confinement est terminé, la librairie est réouverte. Les éditeurs ont repris leurs activités, il y a beaucoup de nouveautés qui étaient prévues avant le confinement qui sont ressorties maintenant, donc le choix est très très vaste pour d'excellentes lectures d'été. Jérôme, bonjour, première question obligée puisque le confinement est terminé, comment va la librairie, comment va la planète dessin ?
Bah, la librairie se porte bien parce que d'une part les bouquins sont de retour et d'autre part les lecteurs aussi. Donc voilà, de bons livres, des sorties intéressantes et des lecteurs qui s'y intéressent, de quoi rendre un libraire heureux.
Donc tout va presque bien, on va parler des lectures de l'été et on va parler aussi de l'intégrale des Bidochons à laquelle vous avez participé en rédigeant un cahier historique. On va se garder ça pour la fin parce que d'abord c'est une série moi qui a bercé mon enfance de lecteur de BD. C'est toujours une grande émotion de voir Raymond et Robert Bidochon, valise à la main, prêts à partir. Peut-être qu'ils vont prendre l'avion pour aller en Russie, c'est peut-être le bon moment.
Dans un pays de l'Est, on ne sait pas lequel.
Donc avant de parler des Bidochons, on va dérouler un peu les conseils de lecture que vous pouvez proposer et offrir aux auditeurs. Par quoi commence-t-on ?
On va commencer par un livre historique absolument magnifique d'Alex W. Inker, qui avait déjà fait Servir le peuple et Panama Al Brown. Et là, il revient avec l'adaptation d'un roman de Virginia Reeves qui s'appelle Un travail comme un autre. Ça se passe aux États-Unis pendant les années 20 et 30. Et en gros, on a un homme qui est électricien. Alors, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que l'électricité à l'époque, on est en train d'électrifier les campagnes, donc pour lui, c'est un argument de séduction de dire qu'il est électricien. C'est un peu comme ingénieur informaticien dans les années 80, si vous voulez. Et là, cet homme tombe amoureux d'une fermière, l'accompagne dans sa ferme et il est loin de son électricité chérie. Alors, ça l'ennuie un peu. Quand arrive la Grande Dépression, les risques de faillite, il a une idée géniale. Il va pirater les lignes électriques qui s'arrêtent à quelques centaines de mètres de là, pour équiper sa ferme, adapter les machines agricoles à l'électricité et donc, comme ça, sauver la ferme de la faillite. Et tout ça fonctionne très bien jusqu'au moment où un ouvrier de l'Alabama Power vient mettre son nez dans l'installation. C'est très fort graphiquement. On est vraiment à chaque fois dans une trichromie. C'est vraiment un dessin, une qualité d'ancrage, des cadrages et une intensité de récit impressionnante.
Petite question, est-ce que ça finit bien ?
Papa, c'est pas le propos. Disons que le chemin est plus important que la destination.
Effectivement, en tout cas, la couverture est très très belle. Il y a une file d'hommes qui nous regardent avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et c'est publié par les éditions Sarbacane. Oui. C'est un gros roman graphique, effectivement très très beau, qu'il faut découvrir.
Oui, Alex Inker, il avait déjà été en sélection à Angoulême, et également repéré par l'Association des critiques de bande dessinée, et je pense que cet ouvrage-là, à ce jour, dépasse encore les autres. C'est peut-être son chef-d'œuvre, so far.
Pour l'instant. Ensuite, on passe à un autre album dont on a parlé dans une bulle d'histoire, c'est Seul à Berlin, de Nicolas Jeuncker.
Alors, ouvrage extraordinaire, nous sommes le 25 avril 1945, les Berlinois, ça fait 4 jours qu'ils n'ont rien mangé, ils sont tétanisés de peur à l'idée que les Russes arrivent, et en même temps, ils rêvent que cette survenue des Russes se déclenche, parce que là, ils n'en peuvent plus, donc ils savent que ça va mal se passer, mais l'attente est peut-être encore pire, et ce livre va raconter la rencontre entre deux femmes qui sont un petit peu des émissaires, des ambassadrices. Donc on a une Allemande qui sait parler russe et qui était l'ancienne fiancée d'un officier nazi, et une Russe des services secrets soviétiques qui parle allemand et qui est traductrice. Et la rencontre entre les deux, celle qui a des illusions, celle qui n'en a plus, c'est absolument formidable. C'est ultra bien écrit, sensible, c'est un vrai chef-d'œuvre.
Oui, l'écriture est très belle et les deux portraits sont absolument bouleversants. Bon, c'est une bande dessinée difficile, hein. C'est une belle lecture de vacances, mais il ne faut pas s'attendre à rigoler beaucoup avec cela Berlin. Mais en revanche, c'est une belle expérience de lecture.
Alors, concernant simplement la notion de lecture de vacances, il y a une très belle initiative des éditions Casterman qui publie 6 de leurs plus beaux romans graphiques dans un format poche vraiment pas cher, léger, transportable, et que vous pouvez emmener à la plage comme vous emmèneriez un bouquin de poche. Alors, parmi ces 6 titres, il y a notamment Paulina de Bastien Vivès, qui avait obtenu le prix de la critique, qui a été adapté en film. Il y a Quartier lointain de Jiro Taniguchi, qui est sommet du manga. Il y a Blankets de Craig Thompson, Autoroute du soleil de Barou, et Le piano oriental de Zaina Abirached. Vraiment, c'est une collection pas chère. Les bouquins sont en petit format, ils sont légers, on n'a pas peur de les abîmer avec le sable, et c'est vraiment à mettre dans votre sac de plage.
Et chaque titre est un sommet dans son genre en plus.
Complètement. Alors on peut aussi les posséder en grand et bel et beau format, puisque c'est vraiment des bouquins qui peuvent mériter un format normal, mais le fait de pouvoir emporter des livres de plage comme ça en bande dessinée, c'est suffisamment rare pour qu'on le signale.
Alors après, parce que là on est dans la librairie, il y a des centaines de nouveautés, donc c'est difficile de les choisir. Heureusement qu'on a les libraires avec nous pour nous aider.
Et oui, c'est à ça qu'on sert un petit peu aussi. Alors un petit détour par le manga. Il y a une série que j'avais beaucoup aimée, moi, qui est apparue à l'été dernier, qui s'appelle Gigant. C'est un manga absolument génial de Hiroya Oku, qui est aussi l'auteur de Gantz et de Last Hero Inuyashiki, deux séries qui ont un peu marqué leur époque et qui sont très très intenses. C'est une série, on en est au tome 4 actuellement. Elle a fait son apparition à l'automne 2019. Et le propos semble un peu farfelu au départ, c'est-à-dire c'est une actrice de film X qui se fait plaquer sur l'avant-bras un dispositif par une sorte d'extraterrestre qui lui donne ça pour sauver le monde. Et le dispositif va lui permettre de devenir une sorte de femme géante. Là où ça a vraiment attiré mon attention récemment, c'est que dans ce livre est décrit un site de fin du monde qui s'appelle Enjoy the End. Et ce site propose à ses visiteurs des sondages. Alors par exemple, dans les sondages, c'est quelle est votre fin du monde préférée entre une pluie d'excréments qui s'abat sur la plaine du Kanto, le premier ministre du Japon fait ses poucous en direct, ou bien le présentateur de la météo décide de faire un jogging à poil dans les rues de Tokyo. Et à chaque fois que les internautes élisent une de ces occurrences, eh bien elles se réalisent. Et quand j'ai lu ça l'an dernier, je me suis dit c'est complètement farfelu, c'est n'importe quoi, mais c'est marrant, et j'aimais bien la série parce que justement il y a ce côté farfelu et amusant. Mais avec le recul, on se dit que le mangaka, il fait quand même quelque chose de l'ordre de l'analyse actuelle. C'est-à-dire on est dans une sorte de présent dystopique aujourd'hui. On en a de plus en plus d'exemples. Alors, je sais pas, au cours des 5 dernières années, des gens qui font des petits dessins dans les journaux subissent une vague de terrorisme. Un ancien présentateur de TV réalité américain prend le pouvoir et a des idées farfelues pour appliquer une politique étrangère. Un Chinois s'alimente avec des animaux sauvages et ça déclenche des pénuries de pâtes et de papier toilette dans les petites villes françaises. Voilà, tout ça, ou bien encore, je ne sais pas, hein, la flèche de Notre-Dame s'effondre sur la cathédrale. Tout ça, c'est aussi des choses qui auraient pu être des choix de Enjoy the End dans cette série. Et donc, j'ai l'impression que la série offre une lecture de notre monde complètement absurde qui est intéressante.
Vous avez sélectionné un autre manga dans un genre là totalement différent.
Oui, alors là, c'est vraiment un manga de baston, un bon manga pour passer un bon moment de lecture et ça vide bien la tête, comme on dit. Ça s'appelle Valkyrie Apocalypse. Alors, au début de Valkyrie Apocalypse, l'assemblée des dieux de toutes les mythologies du monde se réunit et décide du futur de l'humanité. Et globalement, très vite, ils arrivent à une conclusion. Les humains, ça craint. On va tous les détruire. Allez, on revote le déluge. C'est parti. Au revoir les hommes.
C'est sorti avant le confinement, avant tout ça. Hein.
Avant le confinement, bien sûr. Surtout que là, c'est des parutions françaises de titres qui sont parus au Japon il y a quelques années déjà. Devant cette belle unanimité, il y a une Valkyrie, qui est une créature intermédiaire entre les dieux et les hommes, qui lève le doigt, puis qui dit « Bah non, désolé, messieurs, mesdames, les dieux et déesses, non, c'est pas possible. La constitution divine, c'est pas ça qu'elle dit. » Ce que dit la constitution divine, c'est que dans ce genre de situation, c'est le Ragnarok, c'est-à-dire une arène, 13 combats, 13 duels, avec 13 représentants des dieux et 13 représentants des humains qui vont se battre. Le premier camp qui totalise cette victoire l'emporte. Alors, si ce sont les dieux qui l'emportent, là, évidemment, l'humanité disparaîtra. Mais si ce sont les humains, voilà, les dieux sont morts de rire, hein, comment est-ce qu'un humain pourrait dépasser un dieu ? Si les humains l'emportent, ils gagnent 1000 ans de tranquillité. Et c'est parti, on a donc 13 représentants des humains et des dieux qui vont s'affronter. Et je veux citer le deuxième combat qui est particulièrement intéressant, puisqu'on a Zeus, père de tous les dieux, qui fait face à Adam, père de tous les hommes. Et Adam, on le voit complètement nu, avec juste sa feuille de vigne. Comme arme, il n'a que ses poings. Et Zeus, en face, il a la foudre. Alors évidemment, est-ce qu'il va tenir 2 millièmes de seconde ? Eh bien, c'est un peu plus malin que ça, parce que Adam a été fait à l'image de Dieu. Et donc, toutes les techniques de Zeus, il les connaît aussi.
Est-ce qu'il y a un volume par combat ou pas ?
Non, c'est un peu plus délayé. Un combat peut durer moins d'un volume ou s'étendre sur plus d'un volume. Et puis l'auteur a vraiment un talent pour faire des fins qui donnent envie de lire la suite. Donc chaque fin de volume ne s'interrompt pas sur un combat, mais en cours de combat, petite frustration à la fin de chaque volume et vraiment très très envie de connaître.
C'est le quatrième volume que je vois. Il y en a d'autres ou non?
Là, c'est le dernier en cours, ouais. Qui est paru en mai, à la fin du confinement.
Et donc la suite arrivera à l'automne, j'imagine.
À peu près, ouais.
Donc il n'y a pas que des mangas à lire, il y a aussi, des comics.
Il y a aussi des comics. Alors j'ai fait une petite sélection là aussi de deux ouvrages qu'on peut se procurer. Alors Vietnam Journal de Don Lomax aux éditions Delirium, qui est vraiment un témoignage par petits chapitres d'un récit de guerre du Vietnam du point de vue d'un journaliste d'investigation qui est venu en habit militaire, mais sans vouloir porter les armes, s'intéresser à ce conflit. Alors, il est surnommé Journal par les autres soldats, et lui n'a absolument pas vocation à porter une mitraillette ou quoi que ce soit, mais de temps en temps il est bien obligé de le faire, et c'est d'une intensité assez extraordinaire. Le livre est vraiment bien conçu, avec des interchapitres sous forme d'articles de journal, comme si on lisait ces articles, ou comme si chaque chapitre était inspiré par un vrai article. On ne sait pas trop ce qu'il en est, et vraiment à chaque fois c'est des histoires humaines, avec un dessin qui est impressionnant parce que à la fois très détaillé et très lisible.
Oui, d'ailleurs, l'auteur est un ancien combattant de la guerre du Vietnam, si je me rappelle bien, ce qui fait que c'est à la fois du vécu et un talent de narration effectivement assez envoûtant.
Oui. Et puis, autre forme de guerre complètement virtuelle cette fois-ci, un ouvrage de Matt Kint, paru chez un éditeur pas spécialement spécialisé dans le comics, mais qui fait une sélection vraiment très éclairée. Alors ce sont les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, à qui on devait déjà, moi ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Émile Ferris, qui avait remporté à peu près tout ce qui était possible d'emporter comme prix, donc prix de la critique, Fauve d'or à Angoulême, etc., sans compter la moisson de prix dans son propre pays. Et donc ici, c'est Matt Kint qui publie Mind Management. Alors ça s'écrit MGMT, comme des abréviations. Ouais. Et là, il s'agit d'une agence qui est un peu l'équivalent du FBI, mais pour les gens qui ont des pouvoirs paranormaux. Alors, les gens qui sont capables de manipuler vos souvenirs ou qui sont capables de vous faire oublier des choses. Et en fait, cette agence du Mind Management a été dissoute il y a quelques années, si bien que tous ses anciens membres sont dans la nature, sont livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils se font une sorte de guéguerre. Avec des recrutements, avec... bon, voilà. Et c'est très riche. Et surtout, la forme est ultra intéressante parce que tout est rédigé dans des papiers qui simulent les papiers de rapport officiel quand on consigne, quand on est administratif soi-même d'une de ces agences. Donc, on a notamment le règlement intérieur de l'agence qui est rappelé sur une ligne sur chaque page. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas lire dans le fil de la lecture parce que ça prendrait trop de temps et ça perturberait trop. Ouais, ouais. Donc ça oblige à revenir dans le livre, faire une deuxième lecture de ça plus spécifiquement, ce qui permet de redécouvrir des choses maintenant qu'on connaît l'histoire, des petits détails cachés, etc. Vraiment, la forme est très très travaillée.
Et en plus, c'est un trait qui a l'air juste d'un crayonné, mais qui est en fait plutôt très élaboré.
Alors, moi, j'appelle ça du dessin-écriture. Vraiment, c'est pas sur le dessin que ce bouquin est le plus notable. C'est un dessin qui est vraiment un support de l'histoire. Qui n'est pas d'une élégance folle, mais on l'oublie très vite parce que c'est le principe du dessin-écriture. Hein. Je pourrais parler également de Fashion Week de Johann Sfar, qui vient de paraître également chez Dargo, qui est un polar extraordinaire, qui n'est pas son plus joli sur le point de vue esthétique à Johann Sfar. Il a fait des trucs bien plus léchés, mais c'est très écrit et c'est très agréable à suivre. C'est du vrai San Antonio en bande dessinée à la sauce Johann Sfar, un récit inspiré par. Le braquage qui avait eu lieu dans la vraie vie de Kim Kardashian. Là, on a une autre star des réseaux qui s'appelle Kim Kestechian et qui va se faire braquer par un Niçois et son gang, Niçois inspiré par Jacques Médecin lui-même, donc c'est pas rien.
Je reviens sur Mind Management, parce qu'effectivement, sur la couverture, il y a plein d'indications, plein de remarques, par exemple, « Merci de porter des gants de protection psychique à la lecture de ce livre ». Voilà, ça donne une idée de ce qu'on va y trouver.
Ah mince, j'avais oublié de porter les fameux gants et c'est pourquoi...
Moi je les ai pas non plus, donc on n'est pas protégé psychiquement.
Nous sommes fichus.
Donc maintenant on va parler de d'Ebi Dochon. L'intégrale volume 2 vient juste de sortir et vous avez donc travaillé sur ce volume en écrivant le dossier documentaire qui accompagne cet énorme volume, donc l'Ebi Dochon, normalement, tout le monde connaît, mais vous allez nous rappeler qui sont ces deux personnages qui sont apparus dans Fluide Glacial dans les années 80,
quelque chose. Alors, l'Ebi Dochon ont connu de multiples vies, parce que pour Christian Binet, qui est leur auteur, Ebi Dochon, c'est un peu l'équivalent de François Pignon... Dans les films de Weber, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, c'est un peu un nom archétypal. Et donc, les premiers Bidochons qu'on voit, c'est Marthe Bidochon et son mari, je me souviens plus son nom. Il y a eu un épisode unique dans Flûte Glaciale d'une série où un voisin finit par participer à une orgie pendant que sa femme dort. Ensuite, il y a eu un Mohamed Ben Bidochon qui était un homme qui gagnait au loto et qui finissait président de la France, voilà. Et des Bidochons très très proches de ceux qu'on connaît désormais dans l'aspect, mais pas dans le caractère, c'est-à-dire les maîtres de Cador, le chien Cador, le chien philosophe qui lisait Kant. Et eux étaient méchants, ils étaient plus proches du beauf de Cabu. Mais dès que Binet commence réellement la série Les Bidochons, c'est-à-dire Raymond et Robert Bidochon qui se rencontrent tardivement via une agence de placement de rencontres, une agence matrimoniale, pardon, et bien en fait c'est des Français standards, des Français ordinaires. Et donc ils sont pas méchants, ils font de mal à personne, et on s'attache à eux notamment aussi pour ça. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on connaît, où on peut se reconnaître dedans par certains côtés. Ils ont tendance à suivre les modes technologiques avec un peu de retard, mais ils finissent par s'y mettre parce qu'ils veulent pas non plus être à la ramasse. Donc le téléphone portable, ils sont pas dans les premiers à l'adopter, mais ils finissent par en avoir un. Pareil pour Internet, pareil pour tous ces objets du quotidien. Et autant l'œuvre de Binet est souvent appréciée pour son humour, moi ce que je m'attache à faire dans ces dossiers, c'est à montrer aussi les qualités graphiques de Binet, qui est un lettreur d'exception par exemple. Le lettrage des Bidochons fait toujours sens. Quand Robert gueule, eh ben, c'est en grandes lettres. Quand Madame Bidochon est timide, elle écrit en petites lettres tremblées. Il y a vraiment un gros effort, ça donne une voix à ces personnages. Et puis il y a du mouvement aussi dans le dessin. La bande dessinée, évidemment, ce sont des images fixes, mais il se trouve que en faussant le dessin, en faisant des hachures, Binet excelle à montrer un geste de la main ou un chien en train de courir ou un molosse ou des personnages comme ça. Et donc là, dans cette intégrale, eh bien, ça réunit les tomes 5 à 8, c'est-à-dire Ragot Intime, qui est vraiment une critique du quotidien. Ensuite, les Bidochons en voyage organisé, qui partent dans les pays de l'Est. Puis la rencontre avec les hôpitaux dans Assujettis sociaux. Robert doit se faire un pontage coronarien et ça va pas être simple. Et puis Vent du soir, qui sont aussi un petit peu comme Ragot Intime, des chroniques du quotidien, avec en plus des proutes. Voilà. Et donc c'était assez un honneur pour moi d'être sollicité pour écrire ce dossier, parce que c'est vraiment l'occasion de porter un regard critique sur une œuvre qui, si elle est immensément populaire, n'a jamais été très analysée, et ni très récompensée d'ailleurs, par les différents jurys des festivals de bande dessinée.
Moi, ce qui m'a toujours fasciné chez les Bidochons, c'est la richesse des cases, la richesse de la narration, avec une quasi-absence de décor. C'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Avec très très peu de choses, il arrive à planter un appartement, une maison, un avion. Quand je lisais ça dans Fuite glaciale, j'étais fasciné par cette faculté à évoquer avec aussi peu de choses.
Bah, c'est même un jeu pour l'auteur qui, dès le tome 1, au lieu de mettre des décors, met des flèches en disant « superbe commode Louis XV », ou bien voilà. Alors que dans le même temps, il dit « mais si je veux en faire des décors, je peux en faire, et des chiadés même ». Et là, il nous montre les Bidochons assis dans la Tamise avec le London Bridge juste à côté. Enfin voilà, c'est et de fait Binet c'est vraiment un dessinateur très très fort. J'en veux pour preuve un album qui était paru il y a quelques années qui montrait son œuvre en tant que peintre. Ça s'appelait Christian Binet l'œuvre peint, et on y voyait notamment des caricatures du Caravage, des parodies de tableaux célèbres du Caravage, un Saint Matthieu écrivant les évangiles, je crois, pastiché par Binet, qui lui met un stylo plume à la place d'une plume d'oie dans la main, etc. Et c'est des huiles vraiment spectaculaires qu'il a réalisées pour son propre plaisir, sur lesquelles il a passé 6 mois. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a des vraies facilités graphiques. Et le dessin des Bidochons, ça ressort vraiment du choix.
Eh bien, cher Jérôme, merci beaucoup pour toutes ces lectures et cette remise en mémoire de la famille Bidochon. Donc j'invite nos auditeurs, nos auditrices à venir à la Planète Dessin. Vous allez nous rappeler l'adresse, le quartier et tout ce qu'il faut savoir pour venir chercher des bandes dessinées ici.
Oui, alors on est vraiment dans le quartier Montparnasse, la rue Littré, on est au 17 rue Littré, et c'est une rue adjacente à la rue de Rennes, qui tourne le dos à la tour Montparnasse, donc métro Montparnasse, c'est tout ça.
Voilà, il y a un site internet, il y a tout ce qu'il faut pour commander des livres, donc j'invite tout le monde à venir faire le plein de bandes dessinées pour l'été.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.